Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Point de mire reçoit aujourd'hui l'organisation lauréate du prix culturel de la Fondation Louis D de l'Institut de France en 2007, un prix de 750 000 euros. Il s'agit de l'Association des œuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte. Alors, ce prix récompense une initiative bien particulière, le projet Bateau Tremplin, permettant de consolider la dynamique de réinsertion sociale des personnes SDF sans domicile fixe. Pour en parler plus concrètement, nous accueillons Alain de Tonquédec, secrétaire général de l'Association française des membres de l'Ordre de Malte et directeur des relations extérieures. Alain de Tonquédec, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons donc pouvoir parler ensemble plus concrètement de ce projet Bateau de Tremplin qui va voir le jour de ce fait, il me semble, début 2008 et qui va prendre en charge un certain nombre de personnes pour pouvoir les réinsérer socialement et professionnellement. Auparavant, comment vous est venue cette idée de bateau tremplin ?
L'idée est venue du fait que le bateau tremplin est une étape 2 d'un projet que nous avions déjà initié, qui existe à Paris actuellement, et qui est un premier bateau qui s'appelle le Fleuron et qui est sur les quais de la Seine. Sur ce bateau, nous accueillions des gens qui étaient SDF ou sans-abri d'une manière générale et que nous aidons à se réinsérer. La réinsertion se passait généralement pas trop mal, et puis, parce que c'est malheureusement la logique de la vie humaine, on s'aperçoit qu'au bout d'un certain temps, les personnes qu'on vient de réinsérer et qui ont été longtemps dans la précarité retournent malheureusement, quelquefois trop vite d'ailleurs, à l'exclusion. Pour des raisons qui sont toutes simples, ce sont des gens qui ont été exclus pendant longtemps, ils ont perdu l'habitude d'avoir un emploi, un patron, un horaire, enfin des règles, pour être plus clair. Et lorsqu'ils arrivent dans un nouvel emploi, la première anicroche devient un échec. Donc ils retournent à la rue, très vite, et la dégringolade est encore plus rapide. Ce qui fait que nous avons pensé qu'après cette première étape d'insertion, il était utile que nous ayons une deuxième étape, c'est le bateau tremplin, tremplin vers la vie, qui nous permet de les accueillir, mais de pérenniser cette réinsertion qui a été initiée.
Donc c'est une prise en charge à long terme et qui se focalise sur un certain type de personnes, des jeunes, des personnes âgées. À qui ça s'adresse ?
C'est un projet qui s'inscrit dans une durée moyenne de maintenir ces gens-là à bord du bateau pendant des périodes qu'on va dire aux environs de 6 mois, qui est la période nécessaire pour que nous ayons une relative certitude sur leur capacité de réinsertion. Ça s'adresse à des jeunes qui sont dans des situations de précarité, en recherche d'emploi, qui viennent d'à peu près tous les horizons, complètement dépourvus. Ce sont très souvent des jeunes en situation de formation préqualifiante, par exemple, mais qui n'ont aucune ressource. Ça s'adresse à des gens qui sont, je l'appellerais des anciens jeunes, c'est-à-dire des gens qui ont déjà eu un premier emploi, qui sont tombés pour des raisons diverses d'ailleurs dans la précarité, par le chômage, par des tas de choses, et qui ont envie de se réinsérer. Ça peut s'adresser également à des gens qui sont des professionnels qui ont déjà un métier, mais qui sont dans des situations de vie dans lesquelles les capacités d'accueil et d'hébergement n'existent pas. Je prends un exemple qui est tout bête, c'est le veilleur de nuit ou le maître chien. Le veilleur de nuit, c'est quelqu'un qui, malheureusement pour lui, vit quand les autres dorment et réciproquement, et qui n'a pas de capacité d'accueil dans les chaînes hôtelières habituelles. Et le maître chien, c'est quelqu'un qui se fait héberger, mais avec un chien. Et je ne connais pas beaucoup d'hôtels qui hébergent un chien, ce qui est une des caractéristiques de nos péniches d'accueil, justement.
Et justement, voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est que donc vous avez plusieurs cabines, on va dire, puisque c'est un bateau. Hein, donc ce sont des cabines qui accueillent ces maîtres chiens. Et c'est l'idée, c'est de pouvoir mêler des différentes personnes d'horizons différents, pour le coup, de mêler les maîtres chiens avec des jeunes, des personnes plus âgées.
L'idée est venue d'un autre fait. L'idée est venue d'une période, d'un hiver qui avait été extrêmement lourd et dans lequel nous étions tombés sur un certain nombre de personnes qui étaient dans la rue. Et lorsqu'on essayait de les convaincre de venir se faire héberger parce qu'ils allaient mourir dans la rue de froid, un jour on est tombé sur un sans-abri qu'on était en train de convaincre de se faire héberger. Et puis quand il nous a expliqué qu'il avait un chien, c'était pas prévu ça. Le chien, il n'y avait pas beaucoup de centres qui étaient capables de les héberger. Et nous avons reçu un message fort qui nous a permis de nous dire qu'il fallait qu'on y pense. C'était « Mais monsieur, vous, quand vous pleurez, vous avez les moyens de vous payer un mouchoir. Moi, quand je pleure, c'est mon chien qui me lèche mes larmes. » Quand vous prenez ça dans la figure, vous vous dites qu'il y a quelque chose à faire. Donc on a initié à l'époque cette opération un peu originale qui consistait à accueillir et l'homme et le chien. Parce qu'après tout, l'homme qui vit dans la rue avec son chien, ça fait partie de son monde. C'est comme ça que ça a commencé, en partenariat avec la Fondation 30 millions d'amis, avec l'aide des élèves de l'école vétérinaire en particulier, ce qui fait que nous sommes capables de les accueillir. Et c'est vrai que c'est une caractéristique, car je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de centres qui accueillent et l'homme et le chien.
Et à l'occurrence, les maîtres chiens, là pour le coup, ne sont pas sans domicile fixe, ne sont pas sans travail.
Ils ne sont pas sans travail, ils sont quelquefois sans domicile. C'est-à-dire qu'ils ont des rémunérations ou des revenus qui ne leur permettent pas ou qui ne leur ont pas encore permis de trouver un hébergement. Et nous les aidons en leur donnant un premier hébergement qui a l'avantage de leur donner une adresse, donc un lieu où on peut leur écrire. C'est qu'ils ont une référence pour un employeur, etc. qui fait qu'on les socialise par un geste qui est très simple, c'est d'ouvrir une porte et les accueillir.
Alors je suppose que ces personnes seront encadrées. Comment ça va se passer au niveau de l'encadrement? Il va y avoir un tuteur, il va y avoir une direction?
Encadrement, je n'aime pas trop le mot. On a affaire à des êtres humains, donc nous essayons justement de faire en sorte que nous puissions leur redonner un véritable goût à la vie, c'est-à-dire accomplissement de leur projet personnel, accompagnement d'un certain nombre d'étapes dans leur vie et de reconstitution. Il ne s'agit pas de les encadrer. On a une tradition qui est hospitalière, pas militaire. Notre objectif n'est pas de les encadrer. Notre objectif, c'est de faire en sorte que quand ils sont hébergés chez nous, on leur donne tous les moyens utiles qui leur permettront de réussir leur réinsertion. Donc ça peut être un accompagnement psychologique, avec des gens qui sont spécialistes de ça, assistante sociale ou psy. Ça peut être un accompagnement d'une autre nature, ne serait-ce que par des éléments de formation, de maîtrise de l'outil informatique de base, de choses de genre-là. Ça peut être un accompagnement comportemental, c'est comment je me présente, comment je mène un premier entretien d'embauche, comment ce sont plus des accompagnements, ce ne sont pas des tuteurs, hein. Ils auront des parrains, ce qui est beaucoup plus familial comme expression, que tuteurs.
J'avais cru voir, en fait, justement, dans le dossier de presse, qu'il y avait un tuteur, mais peut-être que je me suis trompée.
Oui, enfin, le tuteur est le mot que je qualifierais de juridique. Hein. L'objectif de la démarche que nous avons, c'est que la personne qui est hébergée soit accompagnée par quelqu'un qui le suit. Mais il ne s'agit pas de faire à sa place. Un tuteur, c'est quelqu'un qui fait à votre place. Nous avons pour objectif d'avoir des gens qui soient accompagnés et qui, dans les moments où ils ont un doute de comportement, de choix, d'orientation, puissent se retourner vers quelqu'un qui ne va pas dire à leur place, mais qui va les aider à prendre leurs décisions.
Alors, cette initiative de bateau tremplin est tout à fait louable. Est-ce que vous pensez qu'elle ne marche pas sur l'expression est malheureuse, mais sur les plates-bandes d'autres organismes qui viennent aussi en aide à des personnes qui vivent dans la précarité ou qui sont justement sans domicile fixe ou sans travail?
Votre question me laisse rêveur parce que malheureusement, ça fait presque 1000 ans que l'Ordre de Malte existe, ça fait 1000 ans qu'il y a des gens qui sont dans des situations de précarité.
Je voulais dire par là qu'il existait la Fondation Emmaüs,
oui.
Les Restaurants du Cœur, des initiatives similaires on va dire.
Je pense qu'il y a de la place malheureusement pour toutes les associations et pour toutes les formes de traitement des cas particuliers. Je pense que la vocation d'Emmaüs est parfaitement complémentaire de la nôtre, comme le sont d'autres vocations, d'autres associations. Les Restos du Cœur sont plus proches de l'apport de nourriture, de repas, etc. Ce que nous faisons d'ailleurs par ailleurs. Emmaüs est proche de l'hébergement, mais avec d'autres méthodes d'approche de la personnalité. C'est tout à fait comparable à ce que nous faisons, avec une approche qui est différente. Nous avons tous un objectif commun. Les gens qui sont en situation de précarité ont un droit à la dignité et au projet personnel. Nous avons une approche, Emmaüs en a une autre, les Restos du Cœur une troisième. Il y a d'autres associations, je pense à la Conférence Saint-Vincent-de-Paul, je pense à des quantités d'organismes de ce genre, qui ont des approches qui correspondent à leur vocation ou à leur charisme propre, si vous voulez. J'ai peur d'être obligé de dire que malheureusement, il y aura toujours de la place pour des associations qui traiteront ce type de problème, ce qui veut dire d'ailleurs que quand on a 1000 ans d'histoire, on a le droit de se poser la question de savoir si notre civilisation a beaucoup évolué. Mais enfin, passons.
Alors revenons peut-être à notre bateau tremplin, où sera-t-il installé? Comme c'est un bateau, est-ce qu'il sera amené peut-être à se déplacer, peut-être de ville en ville?
Non, alors c'est pas une course croisière, hein. c'est un bateau tremplin, c'est-à-dire qu'il est amarré, il sera amarré à Asnières. Et la raison pour laquelle il est important qu'il soit dans un lieu donné, c'est que c'est pas parce que vous mettez les gens sur une péniche qu'on les emmène à l'aventure. C'est un lieu qui est doublement symbolique. C'est un bateau, c'est-à-dire que quand ils vont franchir la passerelle qui les amène du bord du bateau, ils changent de monde. Le monde d'avant la passerelle, si j'ose dire, c'est le monde de la précarité dans lequel ils vivent tous les jours. À l'intérieur du bateau, le monde que nous essayons de construire avec eux, c'est un monde dans lequel ils ont une certaine sécurité et la capacité de gérer un projet.
Alain Tonquédec, ce bateau tremplin a plusieurs particularités, on l'aura bien compris. Notamment, ce que vous expliquiez, c'est qu'ils sont sur un bateau qui est amarré et qui est une bulle, en fait, pour ces personnes qui sont installées dans ce bateau.
Il est amarré parce que la structure hôtelière fait que nous avons un certain nombre de connexions avec le sol. Les adductions d'eau, l'électricité, les équipements de type informatique, etc. nécessitent un certain nombre de structures d'organisation et d'équipements qu'on ne peut pas déplacer. Le deuxième élément, c'est que c'est une bulle. J'aime bien la formule bulle finalement parce que Ce qui est important pour nous, c'est qu'une fois la passerelle franchie, les passagers que nous avons à bord s'aperçoivent tout d'un coup qu'ils ont changé de monde. Le monde d'avant la passerelle, c'était le monde de la précarité, c'est le monde dans lequel ils vivent tous les jours. Le monde d'après la passerelle, c'est un monde dans lequel nous essayons de les aider, dans un contexte sécurisé, d'accueil, d'hébergement, d'accompagnement, de construire des projets de vie personnels. C'est la notion de bulle, en l'occurrence, c'est une assez jolie notion.
Tout en sachant qu'après, c'est pour les réinsérer, leur remettre le pied à l'étrier et les réinsérer dans cette vie.
La construction d'un projet personnel passe par la nécessité pour chacun d'entre eux de se prendre en main à partir d'un moment. Je crois qu'il y a un moment où l'acquisition qu'ils ont faite d'une certaine autonomie, d'une capacité de faire, peut-être même tout simplement d'ailleurs quelquefois d'une confiance en eux, fait qu'ils vont repartir et qu'il est légitime d'ailleurs qu'ils n'aient plus besoin de nous.
Comment ces personnes vont pouvoir accéder à ce bateau tremplin? Ce sont des assistantes sociales qui vous mettent en relation avec eux? Comment ça se passe?
Nous sommes en relation dans ce domaine, mais c'était vrai pour la première péniche,
hein, oui,
qui les accueillait à la première étape, avec les services sociaux du maire général, c'est-à-dire avec ADAS, et ce sont eux qui nous envoient les gens que nous avons à bord. C'est-à-dire que ça n'est pas un choix de hasard, ce sont des gens qui correspondent aux objectifs que ont ces deux péniches et qui nous sont confiés pour que nous les aidions, parce que l'ADAS notamment a décelé qu'ils correspondaient à ce que nous avons comme projet.
Et donc ce sont 30 personnes qui peuvent s'installer dans ce bateau?
Sur la deuxième péniche, ce sera 30 personnes avec tout un équipement, puisque les ponts de la péniche seront respectés, avec des zones qui seront liées à des types d'activités, l'activité, j'allais dire, hôtelière, accueil, etc. Les activités privatives avec les chambres, avec ce genre de choses, et puis des activités où il y aura des activités partagées, voire les locaux qui sont réservés au personnel professionnel qui viendront les soutenir ou les accompagner.
Alors, vous avez bien sûr d'autres activités, hein. Le bateau tremplin, c'est le reflet de l'investissement en partie, hein, des œuvres hospitalières. Quelles sont les autres activités en France, mais aussi à l'étranger?
Ça risque d'être très long si vous voulez vous les lister toutes. Je vais essayer de vous les brosser rapidement en les cadrant selon des thèmes, et puis après je vous donnerai quelques informations plus concrètes sur ce qu'on fait en France. Le monde dans lequel intervient l'ordre de Malte, je vais le classer en trois grands thèmes. Un thème qui est tout le monde du médical, un thème qui est tout le monde du social et un thème que je vais appeler le monde de la formation. Dans le monde du médical, ce sont toutes les actions que nous menons, en France comme à l'étranger d'ailleurs, dans tout ce qui peut être lutte contre les grandes pandémies. Alors bien sûr, on est connu pour la lèpre, mais il est bon de savoir qu'on s'occupe aussi des enfants à naître de mères porteuses du sida que nous essayons de faire naître sains, par exemple. La lutte contre le paludisme, la lutte contre toutes ces grandes maladies qui en fait déciment des populations entières. Dans cet aspect médical, il y a toutes les actions qui sont menées en faveur de la mère et de l'enfant, notamment des maternités. Enfin, il y a une maternité extrêmement symbolique qui est celle que nous gérons à Bethléem. On va dire le monde du médical, d'une manière générale, incluant également tout ce que nous faisons en faveur des personnes handicapées, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est-à-dire les handicapés résultant de maladies du type de la lèpre qui sont très invalidantes, ou des handicapés, polyhandicapés par exemple, comme ceux que nous gérons dans les maisons d'accueil spécialisées qu'on a en France. Avec, à chaque fois, le souci d'essayer d'aller un petit peu plus loin. Nous venons par exemple de monter un partenariat avec l'éducation nationale d'un côté et avec l'AFM, l'Association française de lutte contre les myopathies, qui nous permet de développer maintenant ce qu'on appelle provisoirement un cartable électronique qui permettra à des enfants polyhandicapés hospitalisés de suivre une scolarisation normale dans des conditions normales. Grosso modo, c'est le monde du médical. Le monde du social, c'est le monde de la lutte contre la précarité que je viens d'évoquer, avec bien sûr ce que nous avons évoqué dans le cadre des deux péniches, avec des petits déjeuners qui sont servis ou des déjeuners qui sont servis dans la rue par des bénévoles à travers la France, notamment dans les grandes villes, l'accompagnement des opérations de SAMU social, etc. Tout ce qui va tourner autour du monde du social d'une manière générale. Et le monde des formations, c'est un monde qui est en gros complémentaire de ces deux premiers mondes, c'est notamment la formation des ambulanciers. Nous sommes la première école d'ambulanciers de France. Nous formons le quart, entre le quart et le tiers des ambulanciers en France. Et bien entendu, toutes les formations au secourisme.
Au premier secours.
Ce qui n'est pas loin de notre vocation, c'est le geste qui sauve, le secourisme. Mm-hmm.
Donc ça, c'est pour la France et l'étranger?
C'est pour la France et l'étranger. Les formations d'école d'ambulanciers, nous en avons créées au Mali, au Maroc, etc., comme il y en a en France. Le secourisme, nous développons les formations de secouristes dans tous les pays dans lesquels nous avons une présence. Les actions en faveur de la mère et de l'enfant, on le fait dans certains cas en France, dans d'autres cas à l'étranger et quelquefois de manière complémentaire.
Pour parler un peu plus technique, cette association, ça regroupe combien de bénévoles, combien de salariés, et puis vos financements sont privés? Alors comment ça se passe?
L'Ordre de Malte sur le plan mondial, c'est 11 000 membres et 120 000 bénévoles. Sur le plan français, les membres de l'Ordre sont 527, vous voyez que je suis précis. Il y en aura d'ailleurs quelques-uns de plus samedi prochain, puisque ce sera la date à laquelle on admet de nouveaux membres. Et nous avons 11 000 bénévoles en France. Les finances, c'est la générosité du public, c'est-à-dire que nous sommes une organisation qui, comme la plupart des grandes organisations caritatives, font appel à la générosité du public, sous toutes les formes. Ça peut être le mailing, la collecte de fonds, les quêtes dans la rue quelquefois, comme les recherches de dons et de legs, les partenariats avec les grandes entreprises mécènes, les opérations qui sont liées à des partenariats locaux, etc., voire des partenariats techniques. Les établissements que nous gérons en France étant naturellement, puisqu'ils sont considérés comme des établissements hospitaliers, en grande partie pris en charge, en tout cas pour la partie journée d'hospitalisation, par la DAS, comme n'importe quel autre établissement hospitalier, bien sûr.
Et donc, sur les ressources financières, ça représente un budget annuel de combien? Je suppose que c'est très variable selon les années, mais avec...
On peut raisonner en budget global. Le budget global moyen de fonctionnement de l'association française est entre 45 et 50 millions d'euros.
Et dont les 750 000 euros de la Fondation Louis D doivent...
seront un excellent secours et je dirais même une magnifique lueur d'espoir pour les gens qui vont en bénéficier, puisque ça va nous permettre de finaliser ce deuxième bateau tremplin qui est une voie ouverte vers une vraie réinsertion.
Est-ce que lorsque vous recevez un prix tel que le prix de la Fondation Louis D, vous avez pour obligation d'utiliser la totalité de cette somme pour ce projet bateau tremplin, ou est-ce que vous pouvez l'utiliser après pour d'autres activités?
Non, nous sommes une association de la loi de 1901 reconnue d'utilité publique en ce qui concerne les activités en France, et à ce titre-là, il va de soi, c'est légal mais c'est parfaitement normal, que les fonds affectés à un objet donné sont utilisés uniquement dans le cadre de cet objet donné. Il est évident qu'il n'y a pas je dirais même juridiquement, si l'on avait envie, ce qui ne nous viendra jamais à l'esprit, nous aurions quelques difficultés à expliquer que je suis content d'avoir reçu de l'argent, que je vais utiliser à autre chose que ce qui était prévu. Donc vous pouvez être tranquille, les fonds affectés à une cause donnée sont utilisés dans le cadre de la cause donnée, évidemment.
Après le projet bateau tremplin, je suppose que l'ordre de Mal doit foisonner d'idées. Est-ce que vous avez d'autres projets en tête déjà pour les années à venir?
Nous avons beaucoup plus de projets que de ressources pour l'instant, ce qui veut dire que la générosité est toujours la bienvenue. On a bien sûr d'autres projets. Il y a des pistes de métiers dans lesquelles nous souhaitons continuer des développements importants. Alors là, c'est clair que tout ce qui tourne autour du monde de la précarité est pour nous une préoccupation fondamentale que nous n'abandonnerons jamais. Tout le monde de l'action menée en faveur des personnes handicapées est une activité à laquelle nous sommes extrêmement attachés. Notamment, si vous ne connaissez pas, il faudrait que vous alliez un jour visiter la maison d'accueil spécialisée pour polyhandicapés que nous avons à Paris, qui doit représenter pratiquement pas très loin de 60% de la capacité d'accueil de Paris dans ce domaine. L'important, c'est bien sûr d'accueillir les personnes handicapées, mais à elles aussi de donner un projet de vie. Et quand vous êtes polyhandicapé, avoir un projet de vie, c'est quelque part pas simple. Donc ça fait partie de nos projets de développement, là aussi. Les actions que nous menons à l'international sont aussi des actions extrêmement importantes. Il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de besoins, et nous sommes très sollicités, donc nous continuerons, bien sûr.
Eh bien, merci Alain Tonquédec de nous avoir accordé.
Merci de m'avoir accueilli surtout.
De nous avoir donc accordé cette interview. Donc, nous en savons plus maintenant sur ce bateau tremplin qui va donc voir le jour janvier 2008.
Janvier-février 2008 normalement.
Donc le bateau existe déjà, les travaux sont déjà faits.
La coque existe. L'avantage de ce genre de formule qui est un inconvénient, l'avantage c'est qu'on a la coque. L'inconvénient c'est que c'est une structure hôtelière amarrée dans laquelle il y a des exigences de sécurité et des normes, d'ailleurs tout à fait légitimes qui sont telles, que les chantiers sont longs.
Eh bien alors, bon courage et puis je l'espère à bientôt, puisque peut-être que vous recevrez l'année prochaine un nouveau prix de l'Institut de France.
C'est de très bon augure ce que vous dites là, merci.
Merci beaucoup et à bientôt.
Merci.
Au revoir.